Et appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous dans un instant. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe. S'il vous manque des clés, des repères pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité, bien surtout, n'hésitez pas, appelez-nous ici à Paris et nos correspondants, nos envoyés spéciaux, nos experts au sein de la rédaction vous répondent en direct 33 9 693 693 70. Et dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat et nous dresserons ensemble un état des lieux du football africain puisque les 5 pays qualifiés de la zone Afrique pour le Mondial 2018 sont désormais connus. Il s'agit du Sénégal, du Nigeria, de l'Égypte, du Maroc et de la Tunisie. Seul le Nigeria, finalement, s'était déjà qualifié il y a 4 ans. On assiste donc à un renouvellement des équipes. D'ailleurs, ni la Côte d'Ivoire, ni le Cameroun, ni le Ghana n'ont réussi à décrocher leur ticket. Alors, quels enseignements tirez-vous justement de la phase de qualification? 3 équipes en lice viennent d'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord revient donc en force. Cette suprématie vous semble-t-elle justifiée? Nous en parlerons ensemble donc dans 30 minutes. Et vous continuez à poster vos commentaires, vos réflexions sur la page Facebook de l'émission. Déjà plusieurs centaines de réactions. La page officiel RFI appel sur l'actualité et j'en lirai évidemment quelques-unes tout au long du débat. Avant de passer au standard, écoutez, une personnalité souhaite vous dire bonjour.
Bonjour, c'est Youssou N'Dour. Ce jeudi 16 novembre, je suis le rédacteur en chef d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez.
Eh oui, Youssou N'Dour, jeudi prochain, c'est donc lui qui a choisi les sujets sur lesquels vous allez réagir. Youssou N'Dour, vous propose donc notez bien hein, les thèmes, débattre sur les relations France-Afrique avec en toile de fond le débat autour du franc CFA, puisque depuis plusieurs mois, vous le savez, des voix demandent une réforme, voire même la suppression de cette monnaie. La sécurité en Afrique, pas de développement sans sécurité et inversement. Donc comment le continent peut-il relever ce défi, notamment grâce à sa jeunesse? Et puis enfin, troisième sujet choisi par Youssou N'Dour, la couverture médicale universelle. À quand une CMU pour tous les Africains? Comment permettre un meilleur accès aux soins pour tous? Si vous souhaitez dialoguer et débattre avec Youssou N'Dour, inscrivez-vous dès maintenant 33 9 693 693 70. La première question du jour nous vient de Conakry. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Vous avez des questions sur le Zimbabwe et la perspective des élections générales de l'année prochaine.
Exactement Juan. Au Zimbabwe, le président a limogé son vice-président et grâce à Mugabe ne casse plus ses ambitions politiques. J'aimerais savoir quel est le réel poids politique de grâce Mugabe. Pourrait-on assister à un bras de fer entre la première dame et le vice-président?
Oui, bras de fer, avec en toile de fond, évidemment, la lutte pour la succession de Robert Mugabe, 93 ans. Bonjour Alexandra Branjon.
Oui, bonjour.
Journaliste au service de RFI, au service Afrique. Ce bras de fer entre la première dame et l'ex-président, cela fait déjà des mois qu'il existe entre ces deux rivaux, ces deux prétendants à la succession de Mugabe.
Oui, tout à fait. Ça fait même des années que Grace Mugabe s'impose dans le paysage politique. Elle a commencé par obtenir un diplôme universitaire. Je vous rappelle qu'avant ça, elle n'avait qu'une formation de secrétaire. Ensuite, elle s'est fait élire présidente de la Ligue des femmes de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Elle a multiplié les meetings politiques, affirmant qu'elle serait prête à épauler son mari si besoin. Aujourd'hui, elle est entourée d'un groupe qu'on appelle Génération 40, une faction au sein du parti au pouvoir composée de jeunes et qui s'oppose ouvertement à l'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa. Lui représente ou a représenté jusqu'à présent la vieille garde, les alliés historiques de Mugabe, ceux qui ont combattu pour l'indépendance. D'ailleurs, Mnangagwa a été longtemps pressenti comme le successeur naturel de Mugabe. Et une fois Grace Mugabe dans la course à la succession, eh bien, il est devenu le rival à écarter.
Et cela s'est fait petit à petit. Hein. Cela a commencé par Grace Mugabe, l'accusant sans le nommer de vouloir prendre la place du chef de l'État.
Oui, apparemment, Robert Mugabe avait prévu de s'en défaire, de se défaire de son vice-président le mois prochain lors du congrès extraordinaire de la ZANU-PF. Mais un incident il y a 8 jours a précipité son limogeage. Grace Mugabe a été chahutée lors d'un meeting politique. Elle s'en est prise aux partisans de Mnangagwa, les accusant d'avoir été payés pour la huer. Et dès le lendemain, Robert Mugabe a laissé entendre qu'il pourrait démettre de ses fonctions son vice-président. 24 heures après, c'était chose faite. Aujourd'hui, donc, Mnangagwa n'est plus le vice-président. Il a été expulsé même du parti, la ZANU-PF, et il est en exil, a priori Maori en Afrique du Sud, ce qui laisse la voie libre pour Grace Mugabe.
Alors justement, Ibrahima Konakré nous demandait quel était le poids réel, le poids politique de Grace Mugabe, l'épouse du chef de l'État.
Le fait qu'elle ait réussi à faire limoger le vice-président Mnangagwa en dit long. Certains observateurs estiment qu'elle n'a jamais été aussi puissante. Il y a 3 ans déjà, elle avait obtenu le limogeage de la vice-présidente de l'époque, Joyce Mujuru, l'accusant également de trahison envers le chef de l'État. Maintenant, on ne connaît pas trop le poids au sein de la zone UPF, ni de cette faction, proche de l'épouse du président, ni de la faction proche d'Emerson Mnangagwa. On sait que Grace Mugabe, Grace Mugabe est détestée, et qu'elle est préoccupée par la survie du clan Mugabe, une fois le chef de l'État décidé. Et de son côté, l'ex-président, lui, aurait le soutien d'une partie de l'armée.
Oui, d'ailleurs, événement important hier après-midi.
Oui, tout à fait. Le chef de l'État-major de l'armée, qui est un ami d'Emerson Mnangagwa, a donné une conférence de presse, lors de laquelle il a mis en garde contre ce qu'il estime être une purge au sein du parti au pouvoir, avertissant que l'armée pourrait intervenir. C'est une déclaration forte, rare, à prendre très au sérieux. Est-ce que l'armée pourrait lâcher les Mugabe, et puis à surveiller le mois prochain le congrès extraordinaire de la ZANU-PF, qui va donner lieu à un véritable bras de fer entre ces deux factions. À cette occasion, si Grace Mugabe est nommée la vice-présidente, eh bien elle est quasiment assurée de succéder à son époux.
93 ans, rappelons l'âge de Robert Mugabe. Les prochaines semaines s'annoncent donc houleuses. Ibrahim, a-t-on répondu à vos questions ?
Tout à fait, Juan. Bonne journée, c'est vous.
Bonne journée, merci de votre fidélité. À bientôt, Alexandra Branjon, 9h16 à Paris. Vos questions, une question sur le Yémen. Bonjour, armée.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez de Bujumbura au Burundi, nous vous écoutons.
Ok, vous savez, Juan, l'ONU a réclamé à Riyad la fin du blocus imposé au Yémen. Alors, Juan, quels sont les moyens concrets dont l'ONU dispose-t-elle pour exiger à Riyad la levée de son blocus?
Oui, l'ONU qui s'inquiète effectivement d'un risque de famine qui pourrait faire des millions de victimes au Yémen en raison justement de ce blocus dont vous parlez à l'instant, armé, blocus imposé par l'Arabie Saoudite. Bonjour Toufik Ben Aïchouch.
Bonjour.
Journaliste au service international de RFI. On va peut-être en quelques mots, c'est important Toufik, de replanter le décor. Depuis 3 ans, les rebelles houthis qui sont soutenus par l'Iran tentent de prendre le pouvoir au Yémen. Du coup, pour soutenir les forces gouvernementales, l'Arabie Saoudite a pris la tête d'une coalition appuyé par les États-Unis. Et depuis 3 ans, donc, ce pays, le Yémen, est le théâtre d'une guerre. Une guerre, finalement, qui s'enlise avec, on le voit bien, des conséquences humanitaires catastrophiques.
Oui, tout à fait. Vous dites que le Yémen fait l'objet d'une guerre. En fait, il fait l'objet de bombardements intensifs, quasi quotidiens, de la part de la coalition, donc menée par l'Arabie Saoudite. Résultat, eh bien, c'est ce que affirme le porte-parole de l'ONU, avec beaucoup d'angoisse, d'ailleurs. Il ne reste, au moment où on se parle, il reste 11 jours avant l'épuisement des stocks de riz, 97 jours avant celui des stocks de blé, et dans 20 jours, il n'y aura plus de diesel dans le nord, et dans 10 jours, plus d'essence.
Donc, et le blocus dont on parle a été instauré en début de semaine dernière, il y a maintenant 8 jours, par l'Arabie Saoudite.
Oui, alors pourquoi ? C'est une réaction à ce qui s'est déroulé. Les rebelles houthis ont lancé un missile d'une portée de 750 km qui a visé Riyad. Le missile a été détruit au-dessus du ciel de Riyad, mais ça empêche depuis les dirigeants saoudiens de dormir encore plus, parce que ça veut dire qu'à n'importe quel moment, la capitale saoudienne est à portée de canon des rebelles. Donc, réaction immédiate lorsqu'il y a eu la destruction de ce missile par les forces anti-aérienne saoudienne, c'est d'instaurer un blocus quasiment hermétique sur tous les ports, les aéroports et toutes les routes du Yémen, ce qui rend la situation des gens vraiment catastrophique. Vous savez qu'il y a 21 millions de gens qui sont dans une détresse complète. Il y a 7 millions de gens qui sont menacés de famine. C'est énorme, les chiffres qu'on cite.
Avec un chiffre qui interpelle évidemment l'opinion publique internationale, chiffre toujours communiqué par l'ONU, un enfant meurt de maladie toutes les 10 minutes au Yémen.
Toutes les 10 minutes, effectivement. Ouais. Sans compter les 7 millions de personnes qui sont atteintes du choléra. Et donc, ils n'ont aucun moyen d'accéder à de l'eau potable d'abord, et puis à des soins surtout.
Et l'ONU a donc demandé, évidemment, la levée immédiate de ce blocus, d'où la question de notre auditeur, de quels moyens dispose l'ONU aujourd'hui pour obliger l'Arabie Saoudite à lever ce blocus?
Un seul moyen, l'indignation, c'est tout, puisqu'elle n'a pas les moyens de contraindre l'Arabie Saoudite à lever le blocus, elle n'a aucun moyen militaire, aucun moyen coercitif, sauf si le Conseil de sécurité votait une résolution avec des dispositions contraignantes. gagnante, mais c'est impossible. Enfin, si ça avait été le cas,
il y aura forcément déjà le veto des Américains, et puisque voilà, la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite est appuyée, soutenue par Washington.
Alors non seulement est appuyée, soutenue par Washington, mais si l'aviation saoudienne peut bombarder, vous savez, il faut identifier des cibles avant, etc. C'est grâce aux satellites américains.
Ouais. En tout cas, voilà, il reste 11 jours avant l'épuisement des stocks de riz.
C'est le chiffre. Il reste que l'indignation.
Ouais, l'indignation. Toufik, merci beaucoup d'être venu répondre à Armée qui nous écoute à Bujumbura. 9h20 à Paris. Vous nous appelez. Toutes vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Si vous n'avez pas la possibilité de nous appeler, peut-être que les frais de communication vous sont trop élevés. Surtout, n'hésitez pas. Allez sur Facebook. Envoyez-nous sur message privé vos numéros de téléphone. Et nous vous rappelons, bien évidemment. Bonjour Christophe Jousset.
Bonjour Juan Gomez.
Du service des sports de RFI, on a une question pour vous ce matin, question foot, mais on ne va pas parler ni de l'élimination de l'Italie, ni des qualifications de la zone Afrique. Non, une question qui concerne le championnat français. Quelle équipe d'ailleurs ? L'équipe de Rennes. Bonjour Fadel.
Bonjour Juan, bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Port-Gentil au Gabon, nous vous écoutons.
La semaine dernière, Sabri Lamouchi a été nommé entraîneur du stade Rennais. En remplacement de ce monsieur Christian Gourcuff. Alors, j'aimerais savoir comment expliquer le choix porté sur monsieur Lamouchi, alors qu'il n'était pas pressenti pour occuper le poste, et quels sont les nouveaux objectifs du club breton.
Alors, Christophe Jousset, un nouveau président délégué et un nouvel entraîneur, donc Sabri Lamouchi, pour incarner le renouveau rennais après une saison et demie ponctuée de résultats, on va dire, décevants. Comment expliquer le choix de Lamouchi? C'est vrai qu'il y a d'autres noms circulaient.
Oui, on parlait de Gabriel Heinze, l'Argentin, mais René Ruelo a cédé sa place la semaine dernière à ce nouveau président qui s'appelle Olivier Létang. Et en fait, on est reparti sur une nouvelle ère, une nouvelle page à écrire pour le Stade Rennais. Donc, il fallait aussi changer l'entraîneur, d'autant que Christian Gourcuff est arrivé il y a un an et demi avec l'idée de porter un projet breton, entre guillemets. Il s'agissait de faire de Rennes le grand club de Bretagne. Incontesté, hein, mieux que Guingamp, ce n'est pas, les résultats ne sont pas arrivés rapidement en tout cas, et il fallait donc repartir avec un nouvel entraîneur. Alors on parlait de Gabriel Heinze, on parlait aussi également de Christophe Galtier. D'une part, Olivier Létang voulait un entraîneur français, ce qui est le cas de Sabri Lamouchi, et d'autre part, il voulait un entraîneur dynamique, ce qui est aussi le cas de Sabri Lamouchi. Mais c'est vrai que quand la décision est tombée vendredi, ça a été une surprise. On était à ce moment-là dans Radio Foot avec notre consultant Habib Bey notamment, qui est un ami de Sabri Lamouchi et qui n'était même pas au courant lui-même de
surprise de
ce
totale,
qui se tramait. Ouais, alors c'est un peu une surprise parce que Lamouchi n'a jamais entraîné un club de Ligue 1, donc ça va être ses grands débuts. Qu'est-ce qu'il a pour lui?
Il a entraîné, on le rappelle pour ceux qui le découvrent, la sélection ivoirienne et un club au Qatar.
Voilà, exactement. Voilà. Il a entraîné l'équipe nationale de Côte d'Ivoire entre 2012 et 2014. Ça s'est terminé avec une élimination au premier tour pour les Ivoiriens à la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Donc, et puis ensuite, il est parti au Qatar pour entraîner le club d'El Jaïch. Ce sont deux expériences qui ne sont pas totalement concluantes. Donc, il est attendu au tournant, mais il a pour lui sa jeunesse. Il a 46 ans. Le président Létang rappelle que Gourvennec aussi, ancien joueur, a débuté un jour dans un club comme Laurent Blanc avec Bordeaux aussi,
tout à fait,
quoi,
oui.
Et que les résultats ont été bons. Donc c'est un pari de parier sur cet homme Sabri Lamouchi qui est un ancien grand joueur, hein, 12 fois international.
Un seul but,
mais oui, 12 fois international, milieu de terrain, 2 fois champion de France, une fois avec Auxerre, une fois avec Monaco. Donc il a il a joué aussi plusieurs saisons en Italie, notamment à l'Inter de Milan, donc grosse culture tactique, et on va voir si Sabri Lamouchi réussit dans cette première expérience.
Les objectifs du club maintenant, désormais?
Pour l'instant c'est flou parce que les gens sont prudents le passé du Stade Rennais incite à la prudence parce que depuis des années les ambitions sont affichées, mais dans les faits on ne les voit pas venir. Le club est actuellement le 10e de la Ligue 1, c'est insuffisant par rapport aux ambitions affichées au moins potentiel qu'a ce club, puisque derrière, l'actionnaire principal, c'est la richissime famille Pinot.
Effectivement. En tout cas, les prochains grands rendez-vous pour Rennes, ce sera Nantes, le derby le plus attendu de l'année pour les supporters bretons. Et puis il y aura aussi un match face à Marseille en Coupe de la Ligue, un match contre le PSG également. Donc
et difficulté supplémentaire pour la Mouchy. Il arrive à un moment où le club reste sur une série de 4 victoires consécutives. Oui. Donc voilà.
À suivre. Ouais. Vous aurez l'occasion d'en parler, d'en débattre dans Radio Foot International. Merci Christophe Jousset.
Merci.
À bientôt. Bonne journée Fadel. Fadel qui nous appelait de Port-Gentil. Il nous reste encore 5 minutes, le temps de prendre un dernier auditeur ce matin avec vos questions à la rédaction. Bonjour Delvy.
Bonjour Juan, bon et bonjour à tous.
Merci de nous appeler du Congo. Vous avez des questions sur la crise catalane.
En Catalogne, les partis indépendantistes n'ont pas réussi à s'unir pour aller aux élections régionales de décembre prochain. En allant au nord dispersé à ces élections, quelles sont les chances des indépendantistes et pourquoi ont-ils choisi de ne pas s'unir?
Oui, bonne question, effectivement. C'est vrai que Carles Puigdemont n'a pas réussi à composer une liste commune aux trois partis indépendantistes. Il y aura donc plusieurs partis indépendantistes lors de ces élections du 21 décembre. Des élections, rappelons-le, convoquées par Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, pour tenter de mettre fin à la crise. Bonjour Jean-Marc Sanchez.
Bonjour.
Avocat franco-espagnol au barreau de Paris et Madrid. Je signale que vous êtes le fondateur de la commission franco-espagnole de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris. Expliquez-nous pourquoi il n'y aura pas de grande coalition indépendantiste au scrutin du mois prochain.
Il n'y en aura pas parce que Carles Puigdemont n'a pas pu tout simplement réunir autour de lui les trois partis indépendantistes de sa coalition, John Belsi, Ensemble pour le Oui, qui gouvernait jusqu'à la dissolution du Parlement et la destitution de son gouvernement, c'est-à-dire son propre parti, PELECAS, le parti conservateur dont il est issu, et les deux partis de gauche, le parti gauche républicaine de Catalogne, ERC, et le parti d'extrême gauche, la CUP, la candidature d'unité populaire. Alors pour certains, l'exil de Carles Puigdemont en Belgique n'est rien d'autre qu'une fuite qui met à mal la vingtaine d'autres ministres de son ancien gouvernement et députés du Parlement qui sont actuellement eux aussi aux prises avec la justice espagnole, que ce soit en Espagne, certains sont toujours sous les verrous, ou en Belgique. On voit d'ailleurs que Carles Puigdemont s'agite beaucoup, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, en allant jusqu'à chercher le soutien improbable de Julian Assange à Londres. Et on ne sait pas très bien où va le mener cette stratégie. Toujours est-il qu'il n'est pas certain, même s'il se présente aux élections, qu'il puisse mener son propre parti, et en tout cas son propre parti ira en ordre dispersé avec ses autres alliés. Donc même si les indépendantistes gagnaient ces élections, ce n'est pas certain, il n'y aurait pas de coalition qui pourrait mener les indépendantistes au pouvoir.
Oui, donc finalement, c'est un sérieux revers pour Puigdemont. Les indépendantistes, effectivement, vous avez raison de dire qu'ils ne sont pas sûrs d'arriver en tête des élections. En tout cas, si on analyse un peu la situation politique, on a comme la pression qu'en organisant ces élections, le chef du gouvernement espagnol a vraiment tendu un piège aux indépendantistes catalans, puisqu'ils n'arrivent pas à s'entendre et à s'unir pour une élection.
Il a justement parié sur la division et surtout sur le temps court. C'est-à-dire qu'il savait parfaitement que s'il laissait du temps pour que ces élections s'organisent, les forces d'indépendantistes, quels que soient les mouvements qui les représentent, pouvaient se reconstituer. Or là, il ne leur laisse pas le temps. Donc le 21 décembre est la date la plus proche qui était prévue par le calendrier électoral espagnol. Ça ne pouvait pas se faire avant. Et si cela s'était fait après, Madrid courait le risque que les indépendantistes se regroupent et s'unissent pour tenter une nouvelle fois de gagner ces élections régionales qu'ils ne sont aujourd'hui pas sûrs de remporter. Et même, encore une fois, en additionnant les voix des différents partis indépendantistes, s'ils y parvenaient, les dissensions sont telles aujourd'hui au sein de ces partis que tout oppose, puisque cette coalition rassemblait des gens à la fois de droite et d'extrême gauche, rien ne permet d'assurer qu'ils seraient en mesure de pouvoir gouverner.
Merci d'avoir été avec nous, Jean-Marc Sanchez, avocat franco-espagnol au barreau de Madrid et de Paris. En tout cas, les derniers sondages donnent Puigdemont en 4e position, donc ce serait une débâcle pour l'ancien président de la Catalogne. Dossier à suivre, bien évidemment, sur RFI et RFI.fr. À suivre le journal, on revient dans 10 minutes, on va parler football et on va surtout s'intéresser aux qualifications de la zone Afrique au Mondial 2018.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.